VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité aux États-Unis. Course à la Maison-Blanche, première cruciale aujourd'hui dans l'Indiana pour les favoris, à savoir le républicain Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton. Ces élections pourraient aussi se révéler déterminantes pour leurs derniers rivaux, le sénateur républicain Ted Cruz et son collègue démocrate Bernie Sanders, respectivement. Des détails avec Idrissa Sedoudia.
Une victoire de Trump aujourd'hui dans l'Indiana pourrait sceller le sort de M. Cruz, bien avant même la Convention nationale républicaine qui doit investir en juillet à Cleveland le candidat du parti. L'objectif de M. Cruz est d'empêcher Trump d'avoir les 1237 délégués requis pour passer au premier tour et de l'emporter lui-même par la suite. 57 délégués républicains sont en jeu dans l'Indiana, soit le plus grand lot avant la Californie le 7 juin. Les sondages donnent l'avantage à Trump, qui n'a pas hésité à dire « Si on gagne dans l'Indiana, c'est fini », ajoutant « Et après, on pourra se concentrer sur Hillary, la malhonnête ». La démocrate Hillary Clinton, de son côté, bat campagne dans l'Indiana, où la lutte est serrée entre elle et son rival Bernie Sanders. Mais elle a déjà commencé à axer ses attaques sur Donald Trump, comme si elle avait déjà éliminé de la course M. Sanders. Ce dernier ne s'avoue pas vaincu et compte poursuivre sa campagne jusqu'à la Convention nationale démocrate en juillet à Philadelphie.
On passe maintenant à l'Afrique. Balai diplomatique au Mali après les ministres français et allemands des Affaires étrangères. C'est maintenant le sous-secrétaire adjoint aux opérations de maintien de la paix de l'ONU qui se rend dans le pays. Au cœur de ses visites, le retour de l'administration malienne dans certaines localités au nord du pays, les récents événements de Kidal, la sécurité et l'accélération de la mise en application de l'accord de paix. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Le sous-secrétaire adjoint aux opérations de maintien de paix des Nations Unies a eu des échanges avec les différents protagonistes de la crise malienne. Il s'est rendu à Kidal pour échanger avec la CMA. La première des priorités de sa mission est la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de l'accord d'Alger signé en mai dernier. Hervé Latsou.
Il est très important qu'on puisse mettre en œuvre effectivement des concepts qui étaient présents dans l'accord. Par exemple, l'idée de patrouille conjointe. Il y en a eu une en décembre et puis c'est plus rien passé. Or, en fait, c'est en se montrant sur le terrain qu'on convaincra les populations que, voilà, on fait le job.
En tournée africaine avec son homologue allemand, le ministre français de la coopération internationale affirme que le soutien de l'Union européenne sera continuel au Mali. Jean-Marc Ayrault.
L'Europe peut aider à former toutes les armées du G5. Que par ailleurs, nous souhaitons que l'Europe apporte sa contribution financière concrète pour l'équipement de ces armées. Je pense, par exemple, pour l'armée malienne des hélicoptères, ça sera bientôt le cas, mais aussi des blindés, car je crois que ce sont des matériels qui peuvent le mieux protéger les soldats, quelle que soit leur nationalité, on le voit bien actuellement au Mali.
Frank-Walter Steinmeier, ministre allemand des Affaires étrangères.
Nous soutenons le processus de réconciliation.
Les deux ministres européens ont rencontré le président Ibeka à Koulouba. Ils étaient accompagnés par le ministre malien de la coopération internationale, Abdoulaye Diop.
Je voudrais aussi rappeler que les deux pays ont de tout temps, de façon constante, réaffirmer toujours leur attachement à l'unité, à l'intégrité territoriale et à la stabilité du Mali. La France, un pays ami, un pays qui a des relations multiformes avec le Mali. Nos amis allemands, qui ont été les premiers à reconnaître l'indépendance du Mali, qui ont décidé aussi de renforcer leur présence aux côtés de la France, aux côtés d'autres amis européens, dans le cadre de l'EUTM, mais aussi dans le cadre de l'AMUNISMA, pour continuer à travailler à la paix et à la stabilité du Mali.
Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, l'annulation des mandats d'arrêt contre Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, et l'ancien leader burkinabé Blaise Compaoré continue de susciter des réactions au pays des hommes intègres. La confiance du public dans la détermination des autorités dans cette affaire est loin d'être unanime, malgré la promesse de nouvelles poursuites. Les détails à Ouagadougou avec notre correspondant Issa Napon.
À Ouagadougou, l'on s'interroge sur le réel fondement de cette annulation. Marcel Tangwano est le président du mouvement du 21 avril M21, l'une des organisations de l'insurrection populaire qui a emporté Blaise Compaoré.
Mais nous ne comprenons pas comment à ce niveau-là, après 8 mois qu'on vient nous dire qu'il y a vice de force, nous cherchons à comprendre, nous n'allons pas tolérer cela. Ce n'est pas possible.
À écouter, et le président de la République et quelques personnes autorisées comme le ministre d'État Simon Compaoré, il s'agit là de simples couac dans les procédures judiciaires qui vont vite se régler, quand pour d'autres, cela est un réel motif d'inquiétude. L'avocat de la famille Sankara, Maître Ambroise Farama.
Je pense qu'il s'agit probablement de préparer l'opinion publique contre une éventuelle annulation. Et je pense qu'en tant qu'avocat, nous veillerons en tout cas à défendre les intérêts de nos clients.
Comment le commissaire du gouvernement en est-il arrivé là? Mystère, puisque sollicité pour apporter des éclairages, il n'a pas pu être disponible. Issa Napoum Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le Sénégal et les États-Unis ont signé lundi à Dakar un accord de défense permettant la présence permanente de militaires américains dans le pays pour notamment lutter contre la menace terroriste en Afrique de l'Ouest. Les précisions de Tatiana Mosso.
Un des points de cet accord est la possibilité accordée aux forces américaines d'accéder à des zones au Sénégal, aéroportuaires ou militaires par exemple, pour répondre notamment à des besoins de sécurité ou de santé, et ce, pour une durée indéterminée, selon des responsables des deux parties, se refusant néanmoins à parler de base américaine. L'accord a pour objectif de fixer un ensemble de règles sur la façon dont les forces armées des États-Unis coopèrent avec les forces armées du Sénégal et sur les conditions d'accès et d'utilisation des installations concernées lorsque les militaires américains sont invités au Sénégal. Le pays a accueilli en février pour la 3e fois l'exercice militaire Flintlock, organisé annuellement par les États-Unis en Afrique. Jusqu'à présent épargné par les attaques djihadistes, le pays a renforcé la sécurité dans de nombreux lieux publics, comme les hôtels et les administrations.
Au Kenya, un bébé a été retiré vivant aujourd'hui des décombres, 4 jours après l'effondrement d'un immeuble dans un quartier pauvre de Nairobi, la capitale, qui a causé la mort de 23 personnes. La petite fille a passé près de 80 heures dans une bassine enveloppée sous une couverture et était déshydraté mais apparemment pas blessé, selon la police et la Croix-Rouge kenyane. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU sera bientôt en Somalie pour exprimer son soutien aux élections prévues dans ce pays en août. C'est ce qu'a indiqué lundi l'ambassadeur égyptien Amr Aboulata qui préside le Conseil. La Somalie tente de sortir du chaos et de la guerre civile dans laquelle elle a sombré en 1991. La tournée va durer du 17 au 21 mai. Les représentants des 15 pays membres du Conseil feront également escale à Nairobi et rencontreront la Ligue arabe au Caire. La lutte contre le djihadisme, 4 personnes soupçonnées d'avoir diffusé des messages favorables au djihad et de chercher à recruter pour la guerre sainte ont été arrêtées aujourd'hui dans la région de Madrid. C'est ce qu'a annoncé la garde civile espagnole. Les 4 personnes arrêtées, 3 Marocains et un Espagnol, diffusaient de la propagande pour le djihadisme sur Internet. En Syrie, malgré la trêve instaurée le 27 février par les États-Unis et la Russie, la situation ne s'améliore pas. Beaucoup de violations du cessez-le-feu ont été remarquées, surtout dans la ville d'Alep. Le point avec Maïlys Hegel.
La trêve instaurée le 27 février aura duré moins d'un mois. Depuis la reprise des violences à Alep le 22 avril, plus de 250 civils sont morts, la majorité dans des raids menés par l'aviation du régime syrien. Face à ce constat, les États-Unis et la Russie ont instauré une nouvelle trêve, mais seulement autour de la région de Latakié, dans le nord-ouest du pays, et de Damas, et non à Alep, dont Bachar al-Assad contrôle les secteurs ouest. Lundi, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a dit souhaiter que ce cessez-le-feu soit étendu d'urgence à Alep. Il a exhorté de nouveau les États-Unis et la Russie à redoubler d'efforts pour remettre sur pied la cessation des hostilités. Le secrétaire d'État américain John Kerry a effectué lundi une visite éclair à Genève pour tenter de sauver la trêve en Syrie. Il a rencontré à Genève ses homologues jordaniens et saoudiens et s'est aussi entretenu avec le médiateur de l'ONU, Staffan de Mistura. Il s'est également entretenu au téléphone avec son homologue russe Sergei Lavrov. Ils ont convenu de prendre de nouvelles mesures, dont l'une serait la préparation d'une prochaine réunion.
Et pour terminer, le monde entier célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de la presse. Le thème retenu pour 2016, l'accès à l'information et aux libertés fondamentales, c'est votre droit. Pour le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, il importe que les médias soient libres et indépendants et puissent exercer en toute sécurité. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.